Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est Sébastien Arbogast qui vous parle et aujourd'hui je suis en compagnie de Plume. Bonjour Plume, comment vas-tu ?
Salut Seb, alors toi qui es globetrotter, tu es dans quelle contrée exotique aujourd'hui ?
Là aujourd'hui je suis dans ton bureau, en fait.
Ah oui, salut. C'est vachement exotique. Alors, bienvenue à Otigny-Louvain-la-Neuve, ses vaïnées, ses plages de sable.
C'est ça, Belgique, California.
Voilà.
Et merci de m'accueillir. C'est vrai que effectivement, je suis exceptionnellement de retour pour quelques jours en Belgique, avant de repartir de plus belle vers d'autres contrées, mais on en reparlera dans les épisodes suivants. Alors aujourd'hui, le programme, on n'a pas une actualité débordante vu que c'est les deux semaines, depuis le 21 décembre en gros, depuis le dernier épisode, c'était un petit peu calme, plat au niveau des news, mais pour autant on a toujours l'édito de Plume et puis ensuite on vous parlera aussi d'une question qu'un auditeur nous a posée. Mais d'abord on va commencer par ton édito. Alors Plume, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine ?
Oui, parce que pas d'actualité débordante, mais si, il y avait évidemment, mais vous allez voir. Chers crypto-auditeurs de tout sexe et de tout genre, bienvenue dans Proof of Cast, le podcast de la crypto pour les cyniques, par les cyniques. Aujourd'hui, nous sommes un peu comme le marché des cryptos, un peu comme la bourse. On a la tête dans le cul et le cul dans un fauteuil trop dur. Faut dire que 2018 avait commencé sur le chapeau de roue, on était presque riche, on se foutait de la légère correction car la bulle allait reprendre. Bref, tout allait très bien, madame la marquise, tout va très bien, sauf peut-être la jument grise. Et pendant toute l'année 2018, voilà, on s'est pris des ours dans la tronche avant de finir, comme chaque année, sur cette horreur absolue, immanquable, qu'on appelle la période des fêtes. Faut dire que moi, je me suis toujours méfié du mot fête. Déjà, c'est une injonction que je n'aime pas. Faites ceci, faites cela. Et puis, durant mon adolescence et ma post-adolescence, je me suis trop souvent laissé entraîner par des groupes de gens a priori sympas qui me disaient « Viens, viens, on va faire la fête !» avant de passer le reste de la soirée assis en rond à picoler du mauvais alcool ou à faire tourner un joint. Peut-être que le fait que je boive pas d'alcool et que je ne fume pas n'aide pas trop à me mettre dans l'ambiance, mais étant assis au milieu de ces gens qui faisaient la fête, j'ai commencé à me méfier du mot. Du coup, lorsque chaque fin d'année revient en y mettant un pluriel, je ne peux que prendre une profonde inspiration en espérant me retrouver très très vite en janvier. Parce que le pluriel prend tout son sens, surtout une fois qu'on est marié et qu'on a des enfants. Les fêtes, cela veut dire se taper une série de soirées à trop manger, le cul vissé sur une chaise, une fois dans la famille, une fois dans la belle famille, une fois chez les grands-parents, une fois chez le neveu du chien des voisins. Avec diplomatie, il faudra annuellement alterner l'honneur d'héberger ce repas à la date fatidique du 24, les autres devant se contenter des miettes le 22, le 23, le 25 ou le 26. Bref, à part trop manger, trop gras et trop tard le soir, on s'engueule. Ça fait partie de la tradition de Noël. On règle les vieilles histoires de famille, exacerbées par le mauvais mousseux de l'apéro et par la piquette qui arrose la raclette ou la fondue bourguignonne. On se lamente également sur le cousin machin qui trisse sa première allée à l'université avant d'aller faire un tour, histoire de se donner bonne conscience, dans les mouroirs surchauffés à l'odeur d'urine et de désinfectant où quelques aïeuls grabataires mangent d'une main tremblante une bûche de Noël, moitié crème fraîche, moitié carton. Parce que bon, si en 2017 on était les rois du pétrole et qu'on se foutait de l'héritage, en 2018 on se dit que la villa à Saint-Idesbourg balles de tante Agathe, même divisée entre les 17 neveux, eh bien ça pourrait faire du bien au portefeuille. Pour le moins belge d'entre vous, Saint-Tite-Osbald, ou Saint-Tite, pour les intimes, c'est un peu le Deauville belge, une station balnéaire particulièrement à la mode dans les années 50 et qui pratique des prix sans s'être rendu compte que 1950, c'était avant le Genesis Block, bref, la préhistoire. Une villa à Saint-Tite, ou à Deauville, ça coûte cher, mais tu ne sais jamais si c'est parce que l'acheteur ne s'est pas rendu compte qu'on avait changé de siècle ou si c'est un archéologue qui compte ouvrir un musée. Mais je m'égare. Pendant ce temps, entre deux rows au Roland 2 de Lompe, on s'offre des cadeaux pour lesquels on a dû passer des heures en doudoune, car il fait froid dehors, dans des centres commerciaux surpeuplés et surchauffés. La date arrivant, le stress est intense. Merde, j'ai pas de cadeau pour l'oncle René. Quoi ? Gisèle a déjà 3 enfants et je dois trouver un truc pour les 3 ? Quoi ? La cousine Alphonse a déjà 15 ans ? Moi que lui ai acheté une Barbie ? Mais qu'est-ce qui ferait plaisir à une ado de 15 ans ? Réponse ? Rien ne fait plaisir à une ado de 15 ans, sauf deux choses. Un GSM à 1000 balles, ce qui n'est pas dans votre budget, vu l'état des crypto-monnaies, ou bien qu'on lui foute la paix. Et si tout le monde choisissait de foutre la paix aux ados de 15 ans le soir de Noël, bien des problèmes de l'humanité seraient réglés. À la place de ça, on leur achète des loques produites par des enfants estropiés au Tibet et vendues chez Zara par des vendeuses sous-payées qui ne voient plus la lumière du jour durant le mois de décembre. Tout ça pour s'entendre dire « Il y avait une fille dans ma classe qui avait le même il y a 2 ans. Tu sais Géraldine, la fille super ringard dont je t'ai déjà parlé. » Mais bref, je m'égare. Au final, on dépense une fortune pour offrir des trucs qu'on n'avait pas envie d'acheter à des gens qui ne sont pas contents de les recevoir. L'alternative, c'est de dire que ce qu'on veut recevoir, voire d'aller le chercher soi-même, puis de faire l'étonner en ouvrant le paquet. Oh ! Les sociologues du futur se gratteront sérieusement la tête devant les rites complexes et particulièrement dégradants auxquels se soumet l'humanité sans pour autant en tirer le moindre bénéfice observable. Au milieu de cela, les enfants deviennent insupportables, épuisés par les voyages en voiture incessants, par les nuits trop courtes, surexcités par les cadeaux à chaque coin de la famille, ils hurlent, deviennent capricieux et seront, de toute façon, pendant plusieurs mois incapables de faire face à l'afflux de nouveaux jouets et autres broles qui rempliront leur chambre en débordant plus qu'ostensiblement dans le salon familial. Noël et autres Newton-Mass étant terminés, est-on sauvé pour autant ? Non ! Car le pluriel revient en force avec le nouvel an. Et si le nouvel an était synonyme de danser jusqu'à 3h du mat dans votre jeune temps, si vous invitez maintenant des amis en espérant reproduire cette Madeleine de Proust qui consiste à vous secouer le fessier sur de la musique des années 80, la réalité est tout autre. Vous êtes vieux. En toute honnêteté, vous auriez préféré aller vous coucher à 10h avec un bon Derek sur Netflix, alors que c'est l'heure à laquelle on passe seulement au plat principal. Par principe, il vous semble obligatoire de rester éveillé jusqu'à au moins 1h du mat et de faire « bonne année » avec enthousiasme à minuit pile, mais le corps n'y est pas. Vous enviez les Asiatiques qui, eux, sont déjà au lit. Pas question de mettre les enfants trop tôt au lit qui seraient de toute façon réveillés par les feux d'artifice du voisin qui a visiblement hérité d'un vieux stock de la guerre du Golfe. Car oui, même les feux d'artifice vous emmerdent. Ils réveillent les gosses, ils font hurler les chiens du quartier et de toute façon, vous n'en voyez qu'une partie par-dessus la haie de laurier de votre jardin. La dernière fois que vous en avez fait un, une scorie a même troué votre pull en mérinos à 200 balles, celui que vous gardez pour les grandes occasions. Alors, les feux d'artifice, merci! Au final, l'indigestion de Noël à peine soignée, vous rechutez, vous célébrez le nouvel an à l'Alcacéter avant d'aller pioncer en rêvant de passer le 1er janvier au pieu, grasse mat, en pyjama avec un bon film genre Louis de Funès, quoi, on se prend pas la tête. Hélas, vous êtes réveillé à 7h30 par des mioches encore hagards mais à l'horloge biologique synchronisée par NTP. Vous avez exactement 17 secondes pour trouver au milieu des amoncellements de vaisselle sale et des bouteilles de champagne consignées à moitié vides, des cornflakes encore passables sous peine de hurlement. Mais pourquoi ? Pourquoi s'imposer tout cela ? Pourquoi vider avec dégoût dans l'évier les bouteilles de champagne que vous avez achetées la veille pour un prix supérieur à ce que vaut aujourd'hui tout votre bac d'altcoin. Peut-être pour une simple raison. Après une année passée dans un open space grisâtre à regarder un écran d'ordinateur avec des collègues n'ayant d'autres conversations que le goût du café de la machine, celle du service expédition est clairement meilleure, hein, entre nous, et ben les fêtes sont là pour vous rappeler que le boulot, au fond, c'est pas si mal. Et même si ce que je fais ne sert à rien, même si le seul impact que je peux avoir c'est d'augmenter le nombre de pigeons qui vont s'endetter ou dépenser un peu plus pour notre merde, ça n'est pas pire que la tristement célèbre période des fêtes. Et quand je pense aux malheureux qui sont encore en congé et qui sont, du coup, socialement obligés de continuer la période des fêtes par les soldes, hein. Ah, d'ailleurs, l'avantage de mon boulot, c'est que je dois me taper chaque jour 1 heure d'embouteillage et c'est pile poil la durée qu'il faut pour écouter le Prof of Cast. Elle est pas belle la vie au fond, du coup? Hein? Bonne année!
Magnifique. Je retiens au passage ta magnifique imitation de l'ado de 15 ans frustrée. Elle était splendide. Comme je le disais, on n'avait pas une grosse actualité cette semaine, mais on avait quand même une question d'un auditeur que je voulais évoquer parce que elle est assez intéressante. Vous allez voir pourquoi. Donc c'est Marthe I. Qui nous dit sur le blog, dans l'épisode 15, vous disiez que l'augmentation de la taille des blocs, qui est le choix de Bitcoin Cash, augmente la centralisation de la blockchain. Cependant, le Lightning Network, choix de Bitcoin, me semble aussi poussé vers la centralisation. Et là, il nous donne le lien vers une vidéo YouTube que j'ai regardée pour pouvoir mieux comprendre. Est-ce que chaque solution diminue la décentralisation pour augmenter la scalabilité ? Alors effectivement, il a bien compris déjà la logique du compromis, notre ami Marty, c'est quelque chose qu'on a souvent évoqué. Pour le coup, j'ai regardé la vidéo histoire de me faire une idée, parce que cet argument comme quoi le Lightning Network augmenterait la centralisation, je dois avouer que c'était la première fois que je l'entendais. Donc j'étais curieux de voir un petit peu les arguments du monsieur. Alors en gros, le monsieur nous explique, essaye de nous démontrer par A plus B, que déjà dans un réseau Lightning, donc je rappelle, Lightning Network, c'est cette idée de faire sortir une partie des transactions dans des ce qu'on appelle des state channels, c'est-à-dire des payment channels dans ce cas-là, c'est-à-dire des espèces de chaînes en dehors de la chaîne principale dans lesquelles on peut faire des échanges directement entre utilisateurs et qu'on peut éventuellement clôturer sur la chaîne principale pour authentifier et terminer les transactions. Mais donc ça permet effectivement de désengorger un petit peu le réseau principal, ce qui a tout un tas de bénéfices, dont notamment le fait de faire baisser mécaniquement les frais de transaction sur la chaîne principale, puisque s'il y a moins de transactions, il y a moins d'engorgement et donc les frais baissent. Et ça, a priori, ce serait un bon moyen de faire augmenter du coup le débit possible du réseau, puisqu'il y a tout un tas de transactions qui ne se feraient plus sur la chaîne principale. Et l'argument principal qui est utilisé dans la vidéo pointée par Marty, c'est que en fait, puisque il va y avoir des nœuds qui vont devoir faciliter en gros l'ouverture et le maintien de ces canaux de paiement, donc de ces payment channels, ça va entraîner une centralisation. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait ouvrir un canal de paiement directement avec un autre utilisateur, mais il est assez limité, puisque quand vous ouvrez un canal de paiement, vous devez mettre en gage d'une certaine manière une certaine quantité de Bitcoin. Et ensuite, vous ne pouvez faire des transactions entre vous que à hauteur maximum de ce que vous avez mis en gage. Donc, pour pouvoir faire des transactions avec des montants illimités, vous devez potentiellement ouvrir beaucoup de canaux avec à chaque fois du Bitcoin que vous mettez en gage, ce qui peut être assez pénalisant, ce qui peut être assez limitatif. Et du coup, on envisage déjà que certains acteurs sur le réseau vont créer ce qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire vont eux-mêmes ouvrir tout un tas de payment channels avec des montants en gage assez élevés pour faciliter ces transactions sur le réseau Lightning. Et c'est déjà un petit peu ce qui se passe. Et là où l'argument commence à partir en sucette dans la vidéo, je trouve, c'est que il part du principe, le monsieur, que forcément, ces hubs vont être soumis d'une manière, avec une logique qui m'échappe encore, à une réglementation, vont être obligés de faire du KYC, de l'AML, etc. Et donc, finalement, ceux qui vont ouvrir ces hubs, ceux qui vont créer ces hubs, c'est les banques. Donc, encore une fois, le raccourci est très rapide. Il explique pas du tout dans la vidéo comment il fait ce raccourci-là. Pour l'instant, il y a rien qui oblige quelqu'un qui voudrait mettre en place un tel hub à se déclarer ou à être plus centralisé qu'autre chose. Effectivement, ça va centraliser des transactions. Et donc, quand ces hubs seront créés, ils vont naturellement attirer des gens. Mais je vois pas en quoi il y a quelque chose qui les oblige à se déclarer et à suivre une quelconque réglementation. C'est tout aussi décentralisé et n'importe qui a un peu de Bitcoin pourrait être intéressé à ouvrir un tel hub, puisque oui, au passage, quand vous ouvrez un hub, quand vous gérez des payment channels, évidemment, vous pouvez prélever une petite commission sur les transactions pour compenser votre dérangement d'une certaine manière. Donc voilà, j'ai déjà du mal à voir en quoi, cette logique qui voudrait dire que parce que vous obtenez un hub, enfin parce que vous ouvrez un hub, vous devez forcément être soumis à la réglementation et donc ça ne sera accessible qu'aux banques. J'ai déjà du mal à voir où il veut en venir avec ça.
Ouais. Et puis il faut quand même préciser que le Lightning Network lui-même est un maillage, donc un réseau décentralisé en lui-même. Donc on va rentrer d'un côté, l'argent peut parcourir tout le réseau, et que on peut se retirer, on peut clôturer un channel à tout moment, on peut en ouvrir un autre. Donc déjà en soi, on est toujours libre entre guillemets. Et enfin, il faut bien aussi insister que le Lightning Channel a pour objectif premier de permettre une transaction plus rapide et plus efficace pour ceux qui n'ont pas envie d'utiliser une full transaction Bitcoin. Par exemple, si on fait un petit achat ou un truc comme ça, on veut juste que ce soit facile, mais qu'on ait toujours, il est toujours possible, évidemment, de faire une transaction Bitcoin traditionnelle. Donc là, le but, par exemple, du Lightning Network, la centralisation, effectivement, pour moi, c'est pas du tout un problème. Je vois pas où il veut en venir. Mais effectivement, par exemple, sur le Lightning Network, on pourrait avoir des questions au sujet de l'anonymat. Mais c'est pas grave parce que c'est pas le but. Le but, là, c'est d'être vraiment efficace, de faire toutes les petites transactions qu'on s'en fout, en fait, ce qu'on fait déjà dans la vie de tous les jours. C'est de permettre d'avoir une couche de Bitcoin qui permet de faire des petites transactions quotidiennes, d'aller chercher son sandwich et sans devoir attendre une confirmation de 6 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment le voir comme un second niveau. Donc, même si il est pas aussi efficace que Bitcoin pour certaines choses, c'est pas grave, c'est pas le but. Il est plus efficace dans la rapidité et la facilité. Et comme le dit très bien Sébastien, tout le monde peut créer son hub. Tout le monde peut. Il suffit de lancer une machine avec des bitcoins dessus pour créer un hub. Tout le monde. On peut choisir comment on paye. Donc, je pense que ça ne fait que offrir des libertés. Et surtout, la grande loi de Bitcoin, c'est qu'on va pas essayer de résoudre des problèmes avant qu'ils se posent.
Ouais. Effectivement.
Donc ça c'est la grande philosophie de Bitcoin. Les problèmes, on fait le Bitcoin le plus simple et puis on va résoudre les problèmes qui se posent vraiment. Et donc si effectivement demain il s'avère que le Lightning Network a un gros problème parce qu'il est contrôlé par une entité, ce qui est la définition de centralisé, alors les développeurs diront soit on change quelque chose, soit on abandonne le Lightning Network. Ouais. C'est ok, on a fait beaucoup d'efforts, mais ça ne va jamais impacter les utilisateurs de Bitcoin eux-mêmes.
Et ce qui est clair, c'est qu'effectivement, comme tu dis, du moment qu'il reste un choix et que vous pouvez utiliser ou ne pas utiliser le Lightning Network, ce qui au passage n'est pas le cas justement quand vous interagissez avec une banque, puisque à partir du moment où vous rentrez dans le système bancaire, vous devez passer par votre banque pour faire tous vos virements. Si vous décidez d'utiliser le Lightning Network et qu'à un moment donné, il s'avère que les hubs sont centralisés, que ça donne de nouveau trop de pouvoir à certains acteurs, bah, rien ne vous empêche de ne plus les utiliser. Et donc, cette logique qui voudrait dire... Enfin, il y aura pas de logique de « too big to fail » ou de « d'avantage concurrentiel déloyal » ou que sais-je, pour les banques. Ça se posera pas du tout en ces termes. Donc, voilà. Là déjà, il y a des raccourcis qui sont un petit peu...
Et c'est même la définition, en fait, du réseau décentralisé. C'est pas que... c'est qu'on puisse le rejoindre et le quitter comme on veut, ce qui est exactement ce qui se passe avec le Lightning Network. Donc, si ça vous plaît pas, on n'utilise pas le Lightning Network. Et si personne n'utilise le Lightning Network, ben personne ne fera de hub. Et donc... Et voilà, ce sera un échec économique,
Et puis voilà. Technique, et puis on trouvera d'autres technos, c'est pas grave. Ensuite, il y a un autre truc qui est important, c'est de regarder la date quand vous regardez ce genre de document. Et là, la vidéo date de fin 2017, début 2018, si je me souviens bien. Je vais revérifier tout de suite pour vous donner l'idée. Mais effectivement, à une certaine période, l'année dernière, avant le fork de Bitcoin Cash et tout ça, et quand il y avait ce débat entre augmenter la taille des blocs, ce qui est encore une fois la stratégie de Bitcoin Cash, ou implémenter le Segwit2x, ce qui a été le cas de Bitcoin, il y avait ces questions-là. Donc là, la vidéo date du 15 décembre 2017, donc de fin d'année 2017. Et là, effectivement, le débat se posait encore, et effectivement, les frais de transaction sur le réseau Bitcoin étaient assez élevés. Je crois qu'on était de l'ordre de plusieurs dizaines de dollars à l'époque.
Ouais, on était à 25-30 dollars la transaction. Voilà. En décembre, parce que là, il y a eu, mais avec, je sais pas, c'était à plus ou moins au moment du pic, il y a eu un afflux aussi de transactions, ben des gens qui ont cherché à vendre, qui cherchaient à acheter.
Voilà, c'est ça. C'était au top du mouvement spéculatif. Aujourd'hui, il faut savoir, j'ai regardé un petit peu les dernières stats, on est de nouveau revenu à l'ordre de 11 cents par transaction. Et je rappelle encore une fois, c'est 11 cents. Il y a pas de pourcentage du montant de la transaction. C'est 11 cents point barre. Que ce soit une transaction de 1 bitcoin ou de 0,001 bitcoin. Donc ça, on est revenu de nouveau à des frais assez raisonnables, et en plus au niveau de la congestion, du coup ben ça va ensemble. On vous mettra le lien sur le blog d'un petit site de démo qui à la base était conçu pour démontrer la puissance suprême de Bitcoin Cash, et qui vous montre qu'en fait Bitcoin Cash ça sert pas à grand chose. Enfin, la stratégie choisie par Bitcoin Cash ne sert pas à grand chose.
Oui, et donc pour l'explication, c'est pour ceux qui n'iront pas voir, c'est un site qui s'appelle le Transaction Highway, txhighway.com, qui montre en fait Bitcoin Cash et Bitcoin comme deux autoroutes. Alors Bitcoin Cash a 32 autoroutes à 32 bandes, et tandis que le pauvre Bitcoin lui n'est qu'une autoroute à deux bandes, et le site est relié en temps réel sur la blockchain pour montrer les transactions comme des voitures qui roulent sur l'autoroute, pour montrer qu'effectivement avec deux bandes ça se congestionne plus facilement. Mais ce qui est amusant, c'est que avec deux bandes, effectivement, il y a du trafic. La bande, il y a une bande qui est pleine, mais la deuxième bande, elle est encore peu utilisée. Donc avec deux bandes, finalement, tout le trafic est fluide encore pour le moment. Et sur Bitcoin Cash, ce qui est drôle, c'est qu'avec 32 bandes, de toute façon, il n'y a pas une seule voiture qui passe. Mais alors là, depuis, je vais attendre. Ah, voilà, il y en a une qui vient de passer. Et voilà. Et donc le reste c'est vide. On a cette autoroute à 32 bandes vides, donc ça fait c'était une pub pour Bitcoin Cash à la base. Là ça fait un peu misérable en fait, hein. Donc c'est
et surtout si on persiste dans l'analogie, ça veut dire que l'autoroute à 32 bandes, il faut la maintenir maintenant, il faut la nettoyer, il faut l'opérer, hein, il faut mettre des péages dessus et tout ça, ça coûte cher.
Et si on voulait aller même plus loin, c'est que il a été démontré que plus on fait des bandes sur une autoroute, plus on encourage le trafic, et donc plus il y a de bandes sur une autoroute, plus il y a d'embouteillages. C'est contre-intuitif, mais ça a été montré, c'est que si on passe à une autoroute qui est un peu congestionnée de 2 bandes à 4 bandes, et ben les embouteillages seront pires. C'est un truc qui a été démontré mathématiquement et qui a été observé dans tous les cas. Donc ça n'a rien à voir, hein, mais je me donne le droit de m'égarer, mais c'est un truc que vous pouvez placer en soirée pour faire l'intelligent, et qui démontre que construire des routes en fait est contre-productif en termes d'embouteillage.
Et donc voilà, je vous laisserai regarder effectivement la vidéo en question pour vous faire une idée, mais d'une manière générale, ce que j'en ressors, c'est que effectivement, elle est plus forcément d'actualité, et qu'en plus, il y a cet argument central, ce qu'on appelle un argument de la pente glissante, ou de l'homme, enfin, où il y a plusieurs formes de d'arguments pourris là derrière, mais en gros, il exagère très rapidement, il fait un raccourci sur le rôle que les banques pourront jouer là-dedans, et alors il va plus loin, puisque derrière, il y a une théorie du complot qui voudrait que l'essentiel de l'équipe de développement de Bitcoin aujourd'hui soit contrôlé par le complot judéo-maçonnique. Non, pas, en l'occurrence, c'est pas le complot judéo-maçonnique, mais presque. Il nous parle de la conférence de je sais plus qui, de je sais plus quoi. Enfin, voilà, encore une fois, vous verrez ça dans la vidéo. Mais en gros, il prétend que derrière les développeurs de Bitcoin, il y a finalement une entité qui finance, je crois que c'est Blockstream, les contrôles du coup d'une certaine manière, et que derrière cette organisation il y a essentiellement des grandes banques. Donc encore une fois, une bonne grosse théorie du complot pour alimenter tout ça. Oui, donc c'est bien avec vis-à-vis de Blockstream. Évidemment, la commune, enfin, encore une fois, Bitcoin est un projet open source, donc n'importe qui peut y participer, n'importe qui peut rejoindre le projet et y contribuer. Si à un moment donné on se rend compte qu'effectivement il y a collusion, il y a des développeurs qui sont essentiellement financés par une organisation obscure ou quoi que ce soit, de nouveau rien n'empêche de hard forker et de prendre le pouvoir entre guillemets, puisque il n'y a pas officiellement d'organisation qui a la main mise sur le code et qui a l'exclusivité dessus. Donc cette théorie du complot elle est encore un petit peu abusive, et encore une fois vous avez énormément, au-delà des gens qui contribuent directement et qui développent le code, il y a énormément de gens qui mettent le nez dedans, qui review le code, qui vérifient ce que ça fait, il y a toute une communauté autour qui évidemment se rendrait très vite compte de ce genre de manipulation si elle devait être avérée. Donc voilà, j'ai un peu de mal de nouveau avec ces théories du complot.
Et le problème, effectivement, c'est que il y a beaucoup de critiques de Bitcoin qui sont tout à fait raisonnables et qui sont fondées. Il faut des critiques, mais pour le moment, il y a toute une culture dans les gens qui sont fans de Bitcoin Cash d'attaquer Bitcoin sur tout et n'importe quoi sans dire en fait mais c'est parce que je préfère Bitcoin Cash, et donc ça des fois ça devient lourd en fait. Et donc maintenant dès qu'il y a des attaques sur Bitcoin, il faut se poser la question, est-ce que ça vient de gens, est-ce que d'une manière ou d'une autre les gens sont en train de faire la promotion de Bitcoin Cash, ça devient par exemple le channel Reddit BTC est noyé de liens anti-Bitcoin et pro Bitcoin Cash, et ça en devient juste pénible en fait, parce que...
Mais ça c'est très intéressant, parce que dans n'importe quel argumentaire que vous pouvez entendre sur Bitcoin versus Bitcoin Cash, à partir du moment où vous avez des arguments contre Bitcoin, mais qui ne mettent pas le pendant, la contrepartie sur en quoi Bitcoin Cash résout le problème, il faut vous poser des questions. Et là par exemple c'est le cas, il nous explique en quoi d'après lui Bitcoin et notamment le Lightning Network va augmenter la centralisation, mais il se contente d'affirmer gratuitement, j'ai noté la phrase parce que je l'ai trouvée absolument géniale, il se contente d'affirmer gratuitement que, donc en anglais, block size can be raised without any risk of centralization. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Mais on a déjà expliqué, enfin c'est assez intuitif, à partir du moment où les blocs sont plus gros, ils prennent plus de temps et plus de puissance de calcul pour les hacher, et donc il faut des mineurs plus gros pour faire ça. Et donc ça favorise les gros mineurs, donc ça centralise la puissance de calcul. Donc en quoi, d'après lui, ça ne se produit pas, ça il l'explique pas du tout. Donc c'est typiquement effectivement un argument biaisé où on critique l'adversaire, mais on n'explique pas en quoi nous on résout le problème qu'on critique. Donc ça, quand vous voyez ce genre de biais là, posez-vous des questions. Donc effectivement, clairement, on a affaire à un supporter de Bitcoin Cash qui encore une fois part sur des théories du complot, et notamment au niveau des développeurs qui seraient contrôlés. Je rappelle au passage que dans n'importe quelle blockchain, les développeurs proposent, mais les mineurs et les utilisateurs disposent. Donc si les utilisateurs et les mineurs avaient jugé que l'augmentation de la taille des blocs était la bonne solution, eh ben ils auraient majoritairement migré vers Bitcoin Cash, mais ça s'est pas produit, on peut le voir aujourd'hui. Donc voilà, il faut faire confiance au marché aussi.
Ouais, et le marché pour le moment quand même est en train de décréter que Bitcoin Cash finalement n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'avenir. Si on se fie purement au marché, qu'est-ce qu'on voit, c'est que le Bitcoin Cash vaut $160 aujourd'hui, alors que le Bitcoin en vaut presque 4000. Donc voilà, là il y a quand même, et d'ailleurs il y a eu une sorte de flippening. Donc le flippening, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on prend la valeur totale calculée, donc c'est une valeur tout à fait absurde, mais on prend le nombre total d'une coin, quelle qu'elle soit, on le multiplie par le prix actuel et on a ce qu'on appelle le market cap. C'est une valeur abstraite qui n'a pas vraiment de sens, mais qui permet de comparer. Et aujourd'hui par exemple, le market cap de Bitcoin, il vaut 61 milliards. C'est pas qu'il y a 61 milliards de dollars dans Bitcoin, mais c'est cette valeur un peu abstraite. Et bien le flippening, c'était ce que les fans d'Ethereum appelaient le moment où le market cap d'Ethereum serait supérieur à celui de Bitcoin. Ça s'est pas produit, on s'en est rapproché, mais ça s'est pas produit. Mais ce qui s'est passé cette semaine, c'est que le market cap d'Ethereum a dépassé le market cap de Bitcoin Cash. Et donc ça, c'est voilà, c'est un premier flippening, mais qui semble montrer que dans ces mouvements de marché difficiles où il y a un tri, les gens ont tendance à se débarrasser de leur Bitcoin Cash pour le moment.
Voilà, donc...
Et après, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne peut rien dire sur l'avenir. Peut-être que Bitcoin Cash, dans un an, sera en fait un truc qui vaudra 10 000 ou 100 000 dollars. Et peut-être qu'en fait, l'avenir prouvera qu'ils avaient raison technologiquement. Ouais. C'est juste que pour le moment, la communauté Bitcoin Cash est quand même perçue comme très agressive. Et il y a beaucoup de tensions politiques avec des attaques ad hominem aussi entre des partisans de telle et telle crypto-monnaie. C'est pas toujours beau à voir. Et des fois on s'éloigne de la rationalité technique, on rentre dans des batailles parce que tout simplement pour certains il y a des millions et des millions qui sont en jeu. Donc les gens qui sont investis dans Bitcoin Cash ou qui sont investis dans Bitcoin ou dans Ether commencent à défendre avec émotion leur crypto, tout simplement parce que ça va faire la différence de s'ils auront 100 millions ou rien du tout dans 5 ans, quoi.
Et donc, c'est la stratégie la plus communément utilisée, c'est ce qu'on appelle du FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Plutôt que de vanter sa technologie, on va critiquer celle des autres avec souvent des informations erronées. En fait, voilà, d'un autre côté, moi, ce que je trouve intéressant dans ce débat et dans cette vidéo et dans tout ce qui s'ensuit, c'est que d'une manière générale, c'est ce qui est intéressant avec un projet ouvert comme Bitcoin, c'est que vous avez différentes opinions qui s'affrontent, différentes propositions qui sont mises sur la table, et au final, ce sont les marchés qui désignent les vainqueurs, puisque encore une fois le nombre d'utilisateurs, le nombre de mineurs, le nombre de transactions d'une certaine manière influe sur la valorisation d'une blockchain et d'une crypto-monnaie associée, et donc c'est ça qui décide qu'est-ce qui fonctionne. C'est le principal bénéfice d'une blockchain par rapport à n'importe quel autre système décentralisé. Hein, si vous n'êtes pas satisfait de votre banque ou de votre état, ben essayez donc de hard forker tout ça. Hein, on en reparlera. Donc voilà. Moi, la dernière remarque que je veux faire par rapport à ça, c'est que évidemment, un seul avis ou argument sur une question comme celle-là ne suffit pas pour avoir quelque chose d'objectif. Là, en l'occurrence, je vous dis, c'est la première fois que j'entendais ce genre d'argument. Bon, je suis pas très versé dans la communauté Bitcoin Cash, clairement, mais quand vous avez ce genre d'argument, c'est bien de croiser un petit peu les infos et de constituer un faisceau d'arguments et surtout d'arguments valables. J'ai pas trouvé.
Et d'une manière générale, sur Internet, si vous retrouvez un argument qui a plus de quelques mois et qui a fait long feu, donc qui a fait plouf et que on n'en parle pas, ça n'a pas introduit de changement et tout ça, ben il faut se poser la question, tiens, pourquoi est-ce que personne n'en parle, pourquoi est-ce que ce truc est resté finalement, pourquoi est-ce qu'on déterre ce truc-ci maintenant, hein, déjà la question c'est qui a redéterré un vieux truc, et donc ça c'est quel est l'intérêt de la personne qui a été déterré ça, et deuxième chose c'est ouais mais si cet argument me semble vraiment vraiment important et que pourtant personne ne bouge depuis un an ou depuis deux ans ou depuis des fois on retrouve des vidéos de 2013, de 2014, se dire mais en quoi est-ce que je suis plus intelligent que toutes les personnes qui ont vu cet argument et qui ont dit en fait ça vaut pas la peine. Donc c'est deux questions qui permettent généralement de dire ah, et il y a Anguille Souroge, normalement je suis en train de rater quelque chose. Alors des fois on trouve un truc effectivement et on se rend compte qu'on est un précurseur, mais toutes les fois où moi j'ai cru que j'étais un précurseur, mais finalement c'était peut-être moi qui avait raté une étape.
Mais voilà, après c'est normal aussi, ce genre de vidéos se retrouve et quand on fait un peu de recherche, ben on tombe forcément dessus, et c'est tout l'intérêt de ces gens-là, c'est de rester le plus visible possible. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là, pour répondre à vos questions. Je rappelle au passage que si vous avez d'autres questions, d'autres demandes d'opinions, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur le blog ou à nous les envoyer par sur notre compte Twitter ou la page Facebook du Proof of Cast. On est là, enfin c'est aussi votre podcast, donc on est là pour vous répondre, et c'est avec plaisir qu'on essaye de démystifier tout ça.
Et d'ailleurs, c'est un très bon réflexe qu'a eu, c'est Marty, c'est ça,
ouais.
qui justement voyant cette vidéo, disant tiens c'est interpellant, elle dit je vais demander l'avis d'autres, et plutôt que de la balancer sur tous les réseaux sociaux en disant hey, regardez, je vais demander qu'est-ce que vous en pensez, voilà, comme ça tu as notre avis, ce n'est que notre avis, c'est l'avis de deux personnes, et après et tous les autres, à vous de faire votre propre avis et de voir si
voilà. Et encore une fois, on vous mettra le lien de la vidéo et les liens qu'on a évoqués dans ce petit topo sur le blog de l'émission. Et donc normalement maintenant on devrait passer à l'actualité. Après avoir revu plusieurs sites d'actualité que je consulte d'habitude, ce que j'ai pu constater c'est que clairement pendant les fêtes là, il y avait vraiment pas d'actualité suffisamment intéressante. Il y a eu 2-3 petits événements isolés. On peut parler effectivement, il y a un événement assez important, c'est que le 3 janvier, donc aujourd'hui, à la date où on enregistre cet épisode, on est le 4, donc c'était hier. C'était un anniversaire quand même important, c'était les 10 ans du bloc Genesis sur Bitcoin, c'est-à-dire que Bitcoin a été officiellement lancé, le mainnet Bitcoin a été officiellement lancé il y a exactement 10 ans, donc c'est quand même un petit anniversaire important. Je rappelle que depuis 10 ans, Bitcoin aurait dû être arrêté vu que c'est illégal, il aurait dû ne plus fonctionner vu que ça avait jamais été fait avant, et pour autant tout ça fonctionne admirablement bien malgré tout effectivement les débats qu'il peut y avoir dans la communauté. Donc happy birthday Bitcoin. Mais sinon au niveau de l'actualité, effectivement il n'y avait vraiment pas grand chose, quelques petits événements isolés, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard comme on dit. Donc par contre beaucoup de sites faisaient soit des profils, c'est à dire qu'ils interviewaient des gens influents dans la communauté pour avoir leur avis, etc., notamment sur avoir leur bilan par rapport à 2018 et savoir ce qu'ils pensaient par rapport aux projections pour l'année 2019. Et puis beaucoup d'éditos dans ce sens-là. Et donc je me suis dit que j'allais faire un petit peu la même chose, donner ma vision des choses pour cet épisode de fin d'année 2018, début d'année 2019. On verra si ça se vérifie la fin de l'année. Attention, hein, je suis pas Madame Irma, ça n'est que mon ressenti. Mais voilà pour moi les choses qui ont marqué 2018 avec leurs conséquences pour ce que ça veut dire pour 2019. Alors, on va d'abord parler des ICO très rapidement. Je rappelle qu'en 2017, il y a plus de 5 milliards de dollars qui ont été levés grâce à des ICO. Le pic était clairement fin d'année 2017, début 2018. Et en 2018, il y a que 7,5 milliards de dollars qui ont été levés avec des ICO. Alors vous allez me dire, ça reste beaucoup, puis ça reste plus que l'année dernière, sauf quand vous regardez les tendances mois par mois, hein, je vous mettrai le lien de icodata.io qui montre les stats 2017 versus 2018, et on voit clairement que ça a chuté drastiquement depuis janvier 2017, pour être aujourd'hui à un niveau inférieur à celui de mai 2017. Donc on est clairement sur une baisse massive des ICO. Donc il y a eu beaucoup évidemment de pertes dans ce mouvement, il y a eu beaucoup d'arnaques, il y a eu beaucoup de campagnes de levée de fonds qui ont mené très clairement à des projets qui n'étaient pas honnêtes et qui se sont barrés avec la caisse, pour parler simplement. Et ça a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Maintenant, et puis oui, accessoirement aussi, ça a eu des effets durables sur des startups qui ont essayé de lever des fonds par la suite et qui se sont retrouvés pris dans un vent de méfiance, qui ont eu du mal à lever des fonds et qui aujourd'hui ont du mal à se financer. Maintenant, pour autant, malgré tous ces effets négatifs, moi je retiens quand même quelques effets positifs notables. D'abord, ça a entraîné une prise de conscience du risque et de la responsabilité individuelle des investisseurs dans leurs propres choix. C'est-à-dire que clairement, dans ce genre d'investissement dans les ICO, on peut pas se reposer sur une agence gouvernementale, sur une autorité quelconque pour nous protéger. C'est à nous de faire un choix informé et intelligent en fonction de ce qu'on sait et de ce qu'on apprend sur la campagne d'investissement dans laquelle on se lance. Donc, c'est important de comprendre dans quoi on investit. Deuxième chose, c'est que d'une manière ou d'une autre, comme le cours proprement parler des crypto-monnaies, ça a permis une visibilité grandissante auprès d'un public plus large, aussi bien d'ailleurs du côté des investisseurs que des utilisateurs et même des développeurs. Donc d'une certaine manière, ça a permis une croissance de la communauté, et plus on est de fous, plus on fait avancer la technologie. C'est pas ça le proverbe? Bon, c'est pas grave, c'est ma version du proverbe. Ensuite, ça a évidemment appelé aussi, enfin ça a rappelé la responsabilité des développeurs qui maintenant ont dû apprendre à consolider leur base et produire quelque chose avant d'essayer de lever de l'argent, alors que pendant le plus haut des ICO, évidemment, il y avait beaucoup de projets qui levaient de l'argent sur du vent ou sur du slideware, c'est-à-dire juste des présentations très théoriques avec des grands principes, mais rien de bien concret. Et on a vu avec des projets comme Aragon ou comme Democracy Earth par exemple, une tendance à dire non, on va d'abord développer une première version du produit avant de chercher à lever des fonds. Donc ça aussi, c'est intéressant. D'une certaine manière, ça a un peu bousculé aussi le marché des investisseurs traditionnels, notamment des venture capitalistes, des capitaux risqueurs, qui se sont un petit peu remis en question et en même temps qui ont montré qu'ils étaient pas complètement inutiles. Donc ça, c'est pas négligeable aussi, parce que ça faisait aller une bonne décennie voire plus que ils étaient un petit peu les rois du pétrole. Donc c'était bien un petit peu de les bousculer. Autre chose, c'est que finalement ça va pousser la communauté à expérimenter d'autres modes de financement, et c'est pour ça qu'on a vu se développer de plus en plus de programmes de subsides d'une certaine manière, donc des grants, et tout ce qui est programme de bounties, donc les primes pour résoudre des bugs, pour développer de nouvelles fonctionnalités. Tout ça s'est beaucoup développé et je pense que ça va continuer à se développer dans les mois qui viennent. Et d'une certaine manière aussi, il faut retenir un truc qui ne s'est pas produit, c'est que si vous vous souvenez bien, en 2015 je crois, il y avait eu ce problème de The DAO, donc la première grosse ICO levée grâce à un token qui avait souffert d'un bug massif qui avait permis à 50 millions de dollars en gros de disparaître momentanément. Ça avait donné un gros scandale parce que le le contrat était buggé. Là, il y a tellement eu d'ICO et il y avait eu tellement de peur autour de ces levées de fonds catastrophiques que on peut constater qu'il n'y a pas eu de gros nouveaux problèmes après The DAO. Et donc, clairement, on a augmenté la sécurité de ces contrats de levée de fonds. Alors, il y a eu quelques petits problèmes, hein, mais franchement, rien à la hauteur de The DAO. Et donc, clairement, la maturité du code a évolué dans le bon sens. Donc ça, au niveau des ICO, je pense que on a passé la folie, on a passé la fièvre. Ça n'en reste pas moins un mécanisme de levée de fonds intéressant, mais dans certaines conditions et avec, il faut toute raison garder.
Ah ben oui, parce que moi je voudrais aussi insister sur les 10 ans quand même de Bitcoin. Donc le 3 janvier 2009, le Genesis Block était miné par Satoshi avec en payload la photo de la première page du Times de ce jour qui disait que les Chancellor on brink of second bailout for banks, donc en gros le chancelier renflouait les banques. Donc il y avait quand même un message politique assez fort en disant oui, les banques de toute façon en fait sont renflouées par l'argent, elles dépensent l'argent quand elles en ont, et quand elles en ont plus, ben c'est les citoyens qui payent avec l'argent public. Donc le message était assez fort. Pour fêter ces 10 ans d'ailleurs, c'est je ne sais plus quel échange a fait une publicité en première page du Times, justement. Donc la première page, 10 ans après, la première page du Times dit bon anniversaire Bitcoin. Donc c'est quand même un beau succès symboliquement de dire qu'on est passé d'un petit projet qui prend une photo d'un des plus grands journaux, des plus connus du monde, à pouvoir se payer la première page du journal entre guillemets. Comme tu l'as dit, Seb, en fait maintenant on a de moins en moins, les ICO cherchaient à obtenir de l'argent à tout prix. Tout le monde voulait investir de l'argent pour en espérant en gagner. Il faut quand même dire que beaucoup ont perdu de l'argent, mais il y en a qui sont devenus immensément riches, parce que l'argent évidemment il passe d'une poche à l'autre, et que c'est certains de ces gens riches, donc par exemple Vitalik Buterin, mais il y en a d'autres qui disent mais maintenant qu'est-ce que je fous de cet argent, et qui disent je veux continuer à développer la technologie, et donc ils lancent des grants en disant mais maintenant que j'ai plein de sous en fait, mais je vais payer des gens pour qu'ils fassent des trucs cool quoi. Et donc c'est la méthode la plus simple, c'est de dire bon, ben je vois des gens sympas qui font un projet sympa, je leur donne de l'argent et démerdez-vous avec, essayez de faire un truc cool. C'est pas un investissement, c'est un grant, ça veut dire que je vous donne l'argent et vous êtes libre. On est quand même assez, c'est quand même assez incroyable. Mais quand on est assis sur des millions et des millions, forcément il faut réfléchir, on passe en mode ben comment est-ce que je vais dépenser tout ça. Ouais. Parce qu'après une Lamborghini ben il y en a deux ou trois, mais à un moment on est limité forcément, donc c'est une bonne manière de le faire. Je pense que c'est, et pour conclure en fait ces 10 ans, ce que je trouve intéressant c'est sur Twitter il y a quelqu'un qui a posté une petite liste. Il disait mais peut-être plutôt que de regarder le prix du Bitcoin, le prix le plus élevé ou le prix à un temps X, on va regarder sur chaque année quel était le prix le plus bas, qui va nous indiquer à quel prix en fait les gens ne vendaient plus quoi qu'il arrive. Alors là je vous le dis, en 2012 on est à $4, en 2013 on est à $65, c'est l'année où on a touché les $1000, mais le plus bas c'était $65. En 2014 on est à $200, donc là on est redescendu. En 2015 on est à $185, donc là pour la première fois le plus bas descend, donc là il y a un peu une sorte de désespoir qui dit ah merde, on est descendu, on montera plus jamais. Donc,
c'était
là,
après Mt. Gox je crois.
C'était 2015, c'était Mt. Gox.
C'était après Mt. Gox, il y avait une grosse chute. Ouais.
Alors 2016 on remonte à 365. Il faut savoir que c'est en janvier 2017 qu'on a repassé pour la première fois les $1000, ou en décembre, je sais plus, fin 2016, début 2017. Là, c'était en 2017 le plus bas, c'était $780, et qui a été atteint juste, en fait, on a dépassé les 1300-1400, puis on a recorrigé, mais ça a été vraiment très bref avant de repartir. Et là, on est passé à l'attaque en 2018. 2017, on a fait que monter finalement après, pour 2018 faire que monter aussi avec un plus bas à $3200. Et aujourd'hui, ben 2019, on a un plus bas qui est à $3100, je crois. Donc aussi là, ben comme après un énorme pic, on redescend un petit peu en fait, mais pas des masses finalement. Hein. Donc si on prend la ligne depuis toutes ces années, on ne fait que monter. Mais évidemment, la bulle de 2017 était incroyable. Mais là, le Bitcoin continue son petit bonhomme de chemin. Et en fait, si le prix en soi n'est pas important, c'est que il illustre surtout la demande. Donc, c'est que il y a petit à petit, les gens commencent. Pourquoi est-ce qu'il y a ces bulles et ces crashs? Tout simplement parce que il y a des gens qui amassent beaucoup trop de Bitcoin et puis qui, à un moment, à un moment, ils craquent parce qu'ils veulent devenir riches, donc ils les revendent. Et donc, ça permet de redistribuer plutôt que de faire que Bitcoin reste dans un petit cercle d'élite de 1000 ou 10 000 personnes qui ont découvert ça en 2010. Et ben, ça permet de redistribuer à chaque fois. Un autre exemple, c'est le gars qui avait près de 6 000 bitcoins et qui a décidé d'en donner 5 000 en créant le Pineapple Fund, où il a donné 5 000 bitcoins il a créé un site en disant donnez-moi des idées pour à qui donner mes bitcoins, et je vais donner la majorité de mes bitcoins parce que moi je sais rien faire de tout cet argent. Donc il y a 5 000 bitcoins qui ont été dépensés en étant distribué en plein d'organisations, dans la Croix-Rouge, dans la Free Software Foundation. Et la particularité, c'était qu'il y avait un subreddit, rien que pour ça, où les gens pouvaient donner des idées au mec. Et le mec choisissait en fonction des argumentations. Ben oui, c'est bien, je vais donner. Et on était presque au top. Donc à ce moment-là, chaque bitcoin voulait presque 10 000 dollars. Donc c'était quand même impressionnant. C'est quand même 50 millions qui ont été distribués. Et donc qu'est-ce que ça illustre? C'est vraiment ce mécanisme des marchés qui semble aberrant, qui semble injuste. Finalement, c'est vraiment un mécanisme de redistribution où les gens amassent et puis à un moment mettent de l'argent dans le système en ont, et puis ça se crache à leur revente et ça se redistribue. Finalement, on est en train de, à travers le mécanisme de marché, de distribuer, de décentraliser qui a des bitcoins. Et donc, si en 2009 avoir 100 000 bitcoins était normal, ça valait rien. Si en 2010 un bitcoin valait 70 centimes, avoir 10 000 bitcoins, c'était rien. Mais quand ça s'est passé à 1 000 dollars, avoir 1 000 bitcoins, c'était 1 million. Donc c'était et puis ça s'est recraché. Donc aujourd'hui, on estime que finalement il y a très très peu de gens qui ont encore 1 000 bitcoins. Le mec qui avait plus de 5 000 bitcoins était considéré comme un des plus gros holders. Donc avoir 1 000 bitcoins en 2010, c'était la base de la base. On suffit de lancer sa machine pendant une semaine, on avait 1 000 bitcoins en fait. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont encore 1 000 bitcoins parce que ça s'est redistribué à cause du prix. Donc c'est une leçon de dire c'est un mécanisme normal. Et si vous avez envie de rentrer, comme je dis, il faut investir petit à petit de l'argent qu'on peut perdre parce que ça peut valoir zéro demain, mais de se dire que il est sans doute pas trop tard parce que au moment où tout le monde est désespéré, ici le Bitcoin peut redescendre encore à 1 000 dollars, hein, mais peut-être qu'on a touché le plus bas avant des années.
C'est toujours ce qui est important quand vous observez ce genre de tendance, c'est que bien sûr vous avez la logique des traders qui est très court-termiste et qui regarde des tendances, des micro-tendances, des micro-investissements, mais pour faire ça, il faut avoir l'habitude, il faut avoir une intuition de fou, et surtout il faut faire ça tout le temps.
Et c'est un métier, c'est un métier qui s'apprend et que tous les traders que je connais le disent. La première chose, c'est que pour apprendre à trader, il faut perdre énormément d'argent. Voilà. Donc il faut avoir de l'argent à investir, à perdre, et puis après, c'est un métier qui se gère journalièrement.
Sinon, on peut très rapidement déjà se retrouver dans le piège des émotions et surtout se retrouver dans le piège de ce qu'on appelle les minimums locaux. C'est-à-dire que vous regardez juste un petit mouvement sur un mois et vous tirez des conclusions là-dessus. Alors qu'effectivement, quand on fait le bilan sur 10 ans, on voit que la tendance est complètement différente et c'est difficile des fois de prendre ce recul-là quand c'est son propre argent qui est en jeu. Donc c'était mon deuxième sujet aussi, d'ailleurs merci pour la transition, c'était ce qu'on appelle maintenant le crypto winter, c'est-à-dire cette baisse massive des valorisations des crypto-monnaies, en tout cas sur une année. Et d'une certaine manière, ce que ça a enclenché aussi, c'est que au début, quand ça montait comme ça, la stratégie qui ressortait beaucoup, c'est ce qu'on appelle le hodl, c'est-à-dire gardez vos crypto-monnaies, ça vaudra beaucoup plus cher plus tard. Et puis petit à petit, on est passé à une transition vers ce qu'on appelle le biddle, pour réutiliser le même jeu de mots. Je rappelle, tout ça est basé sur un mime, sur un gars qui, une fois, je crois, sur un Reddit, s'était trompé, avait écrit hodl, donc HODL au lieu de hold, et puis du coup, ça avait déclenché tout un tas d'hilarités et de mimes derrière. Donc ce qu'ils entendent par biddle, clairement, c'est de dire, faut pas qu'on se focalise autant sur la valeur des crypto-monnaies, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la technologie et comment on la fait évoluer pour qu'elle réalise les valeurs qu'il y avait dedans à la base. Et donc il y a tout un tas de gens qui ont revendu leur Lamborghini parce qu'ils avaient plus les moyens de la maintenir et qui à la place se sont remis à développer, notamment des développeurs. Il y a aussi des gens qui ont fait un cash out, c'est-à-dire à partir du moment où leurs investissements de départ, où les premiers mineurs d'Ethereum par exemple se sont mis à pouvoir revendre leurs Ethers pour je sais plus plusieurs milliers de dollars chacun, forcément ils sont remis à revendre massivement et ils ont d'une certaine manière un petit peu lâché le développement alors que ils avaient contribué quand même à l'émergence de cette technologie là et qu'on aurait bien eu besoin de leurs énergies. D'un autre côté, encore une fois, toute cette vague spéculative a augmenté la taille de la communauté, donc a attiré tout un tas de nouvelles énergies, de nouvelles intelligences qui ont aussi participé depuis et qui continuent à participer au développement de tout ça. Donc moi je trouve ça plutôt positif dans l'ensemble, même si encore une fois il y a des gens qui ont perdu de l'argent pour beaucoup je pense encore de manière très virtuelle, mais bon voilà. Autre événement marquant, sur cette année 2018, ça a été l'explosion de tout ce qui est problème à la fois de scalabilité et de gouvernance. Les deux sont liés parce que on a pu voir justement avec l'explosion avec tout le regain d'intérêt qu'il y avait autour de ça, la technologie qui a montré ses limites et sa relative immaturité en termes de scalabilité, puisque vous avez beaucoup de gens qui ont rejoint les réseaux qui n'étaient pas forcément équipés pour gérer autant de transactions et autant d'utilisateurs. Donc ça a montré les limites de la technologie, ça a montré très clairement aux gens, que et notamment aux développeurs, qu'on n'était pas encore au bout du tunnel et qu'il y avait beaucoup beaucoup de travail à fournir encore pour augmenter la capacité de tout ça, et donc la nécessité derrière de se remettre au boulot justement pour préparer la prochaine vague et les prochaines vagues de croissance notamment. Donc grâce à ça, on a eu un regain de financement et d'énergie sur des gros projets de scalabilité comme le Lightning Network sur Bitcoin qui se développe bien, le Proof of Stake et le Sharding notamment sur Ethereum qui là aussi commence à bien avancer, sur tous les State Channels et le Plasma de nouveau au niveau d'Ethereum, mais aussi à beaucoup plus court terme sur des projets comme le Rent ou le eWASP qu'on a évoqué déjà dans des épisodes précédents. Donc toutes des stratégies qui visent encore une fois à augmenter le débit du réseau. D'un autre côté, comme je disais, c'est lié avec tous ces nouveaux projets portés par des équipes qui sont souvent très éparpillées, se pose de plus en plus la question de la gouvernance et de la cohérence d'ensemble. Vous avez beaucoup d'initiatives isolées qui se lancent dans des directions parfois divergentes, avec des difficultés à concilier tout ça. Maintenant, c'est lié aussi, c'est un effet de bord de la décentralisation, hein. Il faut payer le prix entre guillemets de cette décentralisation. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut rien faire pour mitiger les excès. Et il y a des outils à mettre en place, il y a des processus à mettre en place pour limiter un petit peu ce chaos et essayer de réfléchir intelligemment à comment investir tout cet argent dont on parlait un peu plus tôt. Et clairement, je pense que des réunions secrètes comme il y a eu dans la communauté Ethereum en fin d'année, à DEFCON, où justement ce dont parlait Plume à l'instant, c'est-à-dire Vitalik Buterin qui drop 3000 Ethers sur Twitter comme ça à quelques projets sans avoir discuté plus mais alors 3000 Ethers qui lui appartenaient à lui, hein, mais toujours est-il qu'il a accordé des grants comme ça un petit peu facilement. Ça a pas forcément été apprécié par toute la communauté, hein, disons-le clairement, parce que c'est un petit peu ça coupe un petit peu l'herbe sous le pied des systèmes de grants et de bounties, etc. Donc voilà, il y a encore du travail à faire, comme je le disais, pour faire en sorte que ces initiatives soient cohérentes et aillent dans le bon sens. Autre chose aussi qui a marqué l'année, notamment la fin d'année, là je vais pas en parler très en détail parce que j'ai pas encore lu le bouquin, mais en gros il y a un bouquin qui s'appelle Radical Markets, dont j'ai déjà parlé, notamment d'un auteur qui s'appelle Glenn Weil, qui est de plus en plus impliqué dans la communauté Ethereum et qui, on va dire, offre un pendant idéologique, politique et justement de gouvernance qui se conjugue très bien apparemment avec avec la blockchain et avec tout ce qu'elle permet, et qui a donné lieu, je vous mettrai le lien d'ailleurs à un blog post écrit conjointement par Vitalik Buterin et Glenn Weil sur ces thèmes là. Ça parle de vote quadratique, ça parle de toutes les aspirations et les valeurs qui étaient celles à la base de la communauté Ethereum, qui étaient un petit peu perdues dans le bruit avec avec la spéculation, et qui sont revigorées maintenant grâce à ce bouquin et grâce à l'influence de cet auteur là qui revient, qui pousse pas mal de mouvements dans la communauté. Et ça, je trouve ça intéressant. Encore une fois, j'ai pas encore lu le bouquin, je vais m'y mettre, et je pense que je vous en ferai un petit topo dans un prochain épisode. Et puis évidemment, il y a des projets comme Democracy Earth aussi, qui montre, comme d'ailleurs le bouquin apparemment de Glenn Weil, l'importance de pas seulement formaliser la gouvernance au niveau des machines, mais aussi d'inclure la dimension humaine dans tout ça, de formaliser les êtres humains finalement sur la blockchain pour vraiment réaliser tous les bénéfices qui étaient à l'origine de la création de toutes ces blockchains. Donc c'est vraiment très intéressant, et je pense que c'est quelque chose qui est apparu un petit peu sur la fin de l'année et qu'on verra de plus en plus se développer dans l'année qui vient. Autre tendance marquante, la prise de conscience de l'importance de la UX, c'est-à-dire le design de l'expérience utilisateur. Vous avez des projets comme CryptoKitties ou CryptoWars, qui sont plutôt des jeux, leur essor ont fait ressortir l'importance d'un design adapté, puisque eux-mêmes ont fait beaucoup d'efforts par rapport à ça, et clairement l'objectif, c'est d'éduquer les utilisateurs et de simplifier toute leur entrée en contact, ce qu'on appelle le onboarding, avec ces applications décentralisées. Clairement, je pense qu'on a pris conscience qu'il n'y a pas que les smart contracts, c'est un mécanisme intéressant, mais on peut pas les utiliser directement, on peut pas les mettre directement dans les mains des utilisateurs. Il va falloir mettre une couche d'interface utilisateur par-dessus tout ça et la concevoir intelligemment. Donc, quid du rôle du gaz, par exemple, dans Ethereum, de la nécessité pour les utilisateurs de payer pour leurs interactions? Comment on présente ça? Comment on explique ça? Comment on le justifie? Et surtout, comment on l'explique de manière pas trop technique pour que les gens le comprennent? C'est assez important, parce que sans ça, la facilité, ce serait de recentraliser les applications en mettant tout ça côté serveur. Et en termes d'usage, en stockant les clés privées des utilisateurs dans des bases de données, comme ce que font les places de marché à la Coinbase, soit en termes de développement, en utilisant à outrance des infrastructures centralisées comme Infura dans le cas d'Ethereum. Faut vraiment pas oublier que, d'une manière générale, encore une fois, on l'a évoqué dans de nombreux épisodes précédents, la centralisation, elle est toujours plus facile, elle aura toujours une force de gravitation importante, et il faudra dépenser de l'énergie et donc du carburant d'une certaine manière pour échapper à ce puits de gravitation. J'aime bien cette image spatiale. C'est fou. Encore une fois, la centralisation est tentante, et il faut s'en échapper, puisque c'est la vision et l'intérêt principal, encore une fois, de la décentralisation de ces blockchains. Et dans ce contexte, je trouve que des idées comme les métatransactions, qui sont apparues sur Ethereum, encore une fois, vers la fin de l'année, ouvrent des portes qui vont être intéressantes à explorer l'année qui vient. Et le dernier mouvement qui me semble intéressant cette année, ou plutôt l'absence de mouvement pour le coup, c'est ce que j'ai appelé la fébrilité du régulateur. C'est-à-dire qu'on peut constater qu'en 2018, alors qu'on nous faisait des grands discours dans ce sens, on n'a pas vraiment eu de décision concrète, en tout cas prise à l'international, par rapport à la régulation des crypto-monnaies et des blockchains. D'un autre côté, vous connaissez ma position par rapport à ça, hein, je vois pas vraiment en quoi c'est nécessaire. Évidemment, ça pose un gros problème aux investisseurs qui sont plutôt frileux à prendre des risques dans un environnement légal incertain, mais d'un autre côté, je trouve que ça a un effet inhibiteur sur toutes ces levées de fonds un peu folles et sur la spéculation, puisque les gens n'étant pas protégés par une quelconque régulation, ça les oblige à être beaucoup plus prudents et donc à limiter leurs investissements de folie dans tous ces trucs-là, et donc à éviter trop de spéculation. Moi, personnellement, ça me dérangerait pas qu'on reste pendant un temps sur ce flou. parce que la technologie, de toute façon, elle n'est pas prête encore à se passer complètement des institutions. Et pendant que ces institutions, justement, se grattent la tête par rapport aux tokens, aux crypto-monnaies, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg, d'une certaine manière, eh ben, ils foutent une paix royale à tout ce qui est smart contract et à la décentralisation de la gouvernance, avec leur impact potentiellement fondamental sur leur existence, et donc, d'une certaine manière, ça minimise leur résistance. Donc moi, j'aime bien. Je trouve que la fintech, ça fait un peu paratonnerre. Ça attire un petit peu toutes tous les fantasmes et toutes les excitations. Mais derrière, il y a d'autres choses beaucoup plus profondes qui se passent. Et on est plutôt libre de nos mouvements par rapport à tout ça. Je trouve ça plutôt positif. Et à côté de ça, évidemment, vous avez certaines juridictions qui continuent à se développer de manière créative, intéressante et disruptive, comme par exemple la crypto-vallée en Suisse, ou encore Malte, qui va nous, à mon avis, nous ouvrir encore une fois une nouvelle porte en 2019, qui vont être intéressantes. Donc voilà, c'était un petit peu mes...
Oui, mais 2019 s'ouvre en fait sur une nouvelle période. Pour la première fois, on va observer un objet ultra lointain du système solaire. Avec, pour ceux qui ne savent pas, on va observer pour la première fois de près un objet de la ceinture de Kuiper qui est au-delà de Pluton. Donc, on a déjà des photos. Mais, et tout ça pour dire effectivement, là, du coup, on va explorer, je pense, avec la blockchain exactement. On va explorer des tas de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, ça va redevenir un peu aussi normal. Hein. Enfin, le Bitcoin, par exemple, à $3,000, il y a un an et demi, c'était la folie. Il y a 2 ans, c'était impensable. Il y a 1 an et demi, c'était la folie. Aujourd'hui, en fait, c'est nul.
c'est
vraiment nul. Donc les crypto-monnaies vont devenir normales, se normaliser dans le sens que ça va plus être un truc super excitant, ça va plus être un truc de ultra geek. Et donc ça va peut-être nous donner l'opportunité après de construire de nouvelles choses
et ça va ouvrir encore de nouvelles portes. Encore une fois, tout ça est très jeune. Tout ça n'a que 10 ans au maximum. Et il y a encore énormément de choses.
Et donc, n'oubliez pas que l'être humain a tendance à surestimer le court terme et à sous-estimer le long terme. Donc ici, c'est clairement ça. Donc l'être humain disait « Ah, les crypto-monnaies, c'est génial, ça va révolutionner le monde demain. » Donc on achète. Ça se crache. En fait, c'est nul, les crypto-monnaies. Ça va se cracher complètement. En fait, ça sert à rien. Demain, ça servait à rien. Oui, mais... Dans 5 ans, on en reparlera. Mais d'ailleurs, voilà, on fête les 10 ans. Hier, on fêtait les 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a 10 ans, le monde d'aujourd'hui était complètement inimaginable. Il y a 10 ans, on a, il y a déjà un bouleversement financier, un bouleversement économique. À la fois les crypto-monnaies, mais tout le reste aussi. Ben, on voit avec les gilets jaunes qui commencent à, qui en fait sont un mouvement spontané de. Mais en fait, on ne se sent plus gouverné pas complètement. Il y a 10 ans, il faut le rappeler que Facebook était encore dans l'enfance, que une personne sur 10 avait un compte Facebook. Et encore, et que c'était un truc un peu roots. Il n'y avait pas encore la timeline, hein, il y avait à peine des premières apps sur iPhone, que les smartphones Android, personne n'en avait. Il y avait que les riches qui avaient quelques iPhones qui étaient à la mode, mais personne savait pourquoi. On parle d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, le monde a été complètement transformé. Aujourd'hui, vous avez de la 4G partout, vous avez Internet haut débit partout. À l'époque, on allait encore dans les coffee shops pour trouver du Wi-Fi, alors qu'aujourd'hui, le Wi-Fi est tellement merdique qu'on prend son smartphone sur la 4G de toute façon. On a Internet partout, on a des crypto-monnaies qui bouleversent les choses, on a des modèles pour faire de la vraie décentralisation, c'était même impensable. Donc le monde, on a des voitures qui roulent toutes seules, hein, qui sont
presque,
qui sont des voitures électriques qui se vendent. Hein, il y a 10 ans, c'était impensable aussi ça. Les voitures électriques, c'était un truc où les Renault et tout ça faisaient des prototypes électriques de petites voitures citadines, mais ça ne pouvait pas marcher. Aujourd'hui, c'est devenu, si vous avez des sous, moi, si j'avais des sous, la première voiture que j'achèterais, je sais que c'est une Tesla.
145 000 Tesla livrés rien qu'en 2018.
Donc, et ici, dans la région où je vis, j'en vois beaucoup. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont des sous. Mais moi, j'ai regardé par curiosité celle qui me plairait bien, parce qu'avec des enfants et tout ça, c'est la Model X. Mais avec les options que je veux, c'est 110 000 balles, 110 000 euros. Donc, mais si
il y a le marché de l'occasion, hein, il y a rien à racheter.
Mais si le Bitcoin arrive à 110 000 euros, alors peut-être que je m'achèterais...
avec ton Bitcoin.
Voilà, je m'achèterais une Tesla. Mais sinon, voilà. Mais pour tout ça, pour dire que le monde évolue vachement vite, mais qu'on normalise, on oublie complètement en fait que ça a changé. On prend tout ce qui était révolutionnaire, on le prend soudainement pour acquis, et donc on oublie. Et donc on devient assez pessimiste sur l'avenir parce que enfin il y a rien qui change. Et si en fait on n'arrête pas de changer, c'est génial ce qui se passe. Et honnêtement, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous avez un peu d'argent à investir et que vous mettez un peu dans Bitcoin, dans Ethereum et peut-être dans Litecoin ou quoi, vous mettez un peu d'argent, je suis sûr que dans 5 ans vous ne le regretterez pas.
Ça, moi aussi c'est pareil. C'est pas très risqué de prendre ce genre de
voilà. Mais par contre, psychologiquement, c'est possible que dans 6 mois, vous vous dites « Mais qu'est-ce que j'ai foutu, bordel ?» Mais voilà.
Ok, je veux juste clôturer, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, donc évidemment. Je voulais juste clôturer ce petit épisode par un petit bilan intermédiaire pour le podcast, puisque fin d'année, on va regarder un petit peu en arrière sur le podcast lui-même. Donc on en est au 18e épisode. Quelques petites stats comme ça que j'ai récupérées rapidement. On a dépassé les 6000 téléchargements d'épisodes en tout. Alors ça, c'est les stats que me donne Blueberry, le système sur lequel on host ce podcast. Évidemment, ça répertorie pas tous les téléchargements, puis c'est un petit peu compliqué d'avoir des stats sur les podcasts, hein, comme d'habitude. Mais en gros, ça fait à peu près 350 écoutes par épisode, ce qui est quand même pas mal pour un podcast qui a démarré il y a moins d'un an. Une bonne moitié des auditeurs sont en France, un gros quart en Belgique. Là où on est basé. Et puis ensuite, ce qui est plus surprenant, c'est que les pays qui viennent derrière, alors un peu loin derrière, mais on a quand même les États-Unis, le Canada, ce qui est pas étonnant vu qu'on est francophone et qu'on a quand même nos amis québécois qui nous écoutent, la Suisse et alors l'Afrique du Sud. J'ai été surpris, mais effectivement, le 6e pays qui nous écoute le plus, c'est l'Afrique du Sud.
C'est pas toi qui faisais tes tests
Non, c'était pas moi qui faisais mes tests. Non, je confirme. Donc en tout, on est écouté dans 56 pays. Hein, bon, évidemment, le 56e, je crois qu'il y a deux personnes qui nous écoutent, mais quand même. 40% des téléchargements se font depuis Android, 30% seulement sur iOS. Donc clairement, les podcasts sur Android, ça marche beaucoup mieux que ce qu'on imagine. Et moins de 10% sur Windows, donc effectivement, c'est essentiellement sur mobile. On a quand même 136 écoutes en tout sur Spotify. Donc je rappelle que maintenant, les podcasts sont disponibles sur Spotify, donc vous pouvez aussi nous écouter par ce biais-là. On a 5 étoiles sur iTunes, alors ça, merci à vous pour vos commentaires, vos reviews et vos remarques, n'hésitez pas à en laisser encore. Ça influence toujours les gens et ça nous aide à répandre la bonne nouvelle du Proof of Cast. Mais d'un autre côté, voilà, tout n'est pas positif. On peut observer, si je regarde juste le trafic du site sur lequel le blog de l'émission, c'est aussi le blog de chainskills.com, et là on voit une nette baisse, enfin une baisse progressive du trafic, surtout 2018, qui pour moi est clairement conjoncturelle et liée aussi à la baisse du cours et donc de l'intérêt pour ces technologies-là. Maintenant, voilà, on s'accroche, on reste parce que encore une fois, on y croit et on croit à la technologie qu'il y a derrière et à ce qu'elle ouvre comme possibilité. Et donc, on va continuer toutes les deux semaines à vous informer sur l'actualité et à vous expliquer tout ça. Parce que voilà, pour nous, on n'est pas dedans pour l'argent, on est là pour la philosophie, pour tout ce que ça permet.
Mais comme on disait, si on peut avoir de l'argent,
pour notre yacht parabolique, ça serait bien, effectivement. Mais bon, on fera ça, on se débrouillera, on prendra une petite barque sur un lac, ça marchera aussi. Et donc on reste là évidemment pour l'année qui vient, pour continuer à vous informer sur tout ça et à vous expliquer comment ça fonctionne. Donc encore une fois, hein, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager le Proof of Cast avec tous les curieux que vous rencontrez, et nous on continuera avec plaisir à répondre à vos questions, à vos commentaires, à vos remarques, à préciser les choses qui ne sont pas claires dans nos épisodes. Donc encore une fois, via les commentaires sur proofofcast.com, via le compte Twitter Proof of Cast, la page Facebook Proof of Cast, et encore une fois, n'hésitez pas à laisser aussi vos reviews et vos commentaires sur les plateformes de podcast, notamment sur iTunes. Je crois que ça va être la fin de l'épisode, donc peut-être Plume, est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te retrouver?
Sur Plume.net, sur mon site Plume.net. Je pense que c'est central, hein. Et comme je le rappelle encore une fois, même si officiellement ma déconnexion a pris fin, je ne réponds pas aux messages sur les réseaux sociaux. Envoyez-moi un mail si vous voulez entrer en contact avec moi. Et sinon, ben, je suis pour toujours sur Clume.net, et ça depuis 2004.
Oh là là, ça fait loin. C'était avant Bitcoin encore. Oh là là, incroyable. Donc pour ma part, vous pouvez me retrouver toujours sur Udemy. Donc n'oubliez pas, si vous êtes développeur et que vous avez envie de savoir comment développer des smart contracts sur Ethereum, on a le cours sur Udemy, et puis vous avez un code Proof of Cast qui vous permet d'accéder au cours pour la modique somme de 10€. Au passage, on est en train de travailler sur une grosse update, puisque évidemment tous les outils ont changé à la fin de l'année, et donc on est en train de réécrire une bonne partie du cours pour se mettre à jour par rapport à tout ça, et je pense qu'on devrait arriver à publier ça normalement courant février ou éventuellement au plus tard mars, mais on essaye de faire au plus vite. Évidemment ça prend un petit peu de temps, donc n'hésitez pas, et l'update sera gratuite évidemment, donc même si vous achetez le cours maintenant, vous pourrez en bénéficier plus tard gratuitement. Vous pouvez aussi me retrouver, oui j'oublie des fois de le mentionner, mais sur le podcast Les Technos, donc lestechnos.be, de temps en temps je suis chroniqueur aussi dans ce podcast sur la tech en général. On parle aussi de temps en temps de blockchain, mais on parle de gadgets et de technologies et de l'implication notamment que ça a sur nous avec les réseaux sociaux et tout ça, donc n'hésitez pas à aller vérifier, à aller jeter un œil à lestechnos.be. et puis voilà, le prochain épisode du Proof of Cast sera le 19 janvier, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci Plume.
Merci Seb.
Pour cet épisode, et à bientôt, donc là dans 2 semaines, pour le prochain épisode du Proof of Cast. Au revoir.
Salut.